matin la feuille pour le séminaire de philosophie grecque. Comme je vous le disais hier, il s'agit de reprendre un peu ce que représente la métaphysique, comprendre comment, dans la perspective de Heidegger, la métaphysique doit disparaître. Elle a existé un certain temps, mais elle demande de disparaître et il s'agit de reprendre le problème à la source. Je crois que c'est cela qui est quand même la grande intuition de Heidegger, c'est de considérer que la métaphysique telle qu'elle est présentée par Kant, telle que de fait elle a existé pleinement avec Leibniz et Wolff, comment cette métaphysique demande de disparaître, elle doit disparaître parce que elle n'a pas vraiment regarder l'être pour lui-même. Il y a eu toujours un intermédiaire. On a commencé par l'idée d'être. Il faut donc reprendre l'être pour lui-même. Et alors, je ne vais pas ici présenter comment, de fait, Heidegger montre comment il faut penser l'être. C'est intéressant, nous y reviendrons peut-être, mais c'est simplement pour constater le fait. Et je prends alors l'autre aspect que je vous disais hier, regardez dans le dernier livre de Clavel, je l'ai amené exprès pour que vous puissiez le voir, la brique, n'est-ce pas, critique de Kant. Donc ceux qui aiment Kant, qu'il se plonge là-dedans. C'est très fouillé, c'est très intéressant, à la Clavel, hein. C'est-à-dire avec toutes les fantaisies qu'il peut y avoir. C'est reposant, du reste, de temps en temps, qu'il y ait des fantaisies. Quand on est dans Kant, c'est agréable de voir des fantaisies à la Clavel. Et c'est amusant. C'est très amusant à lire. Ça se lit comme un roman philosophique. Et un roman policier, j'allais dire, parce qu'il essaie de traquer Kant. Alors, au fond, Clavel aboutit à ce fait qu'il veut être... qu'il veut aller plus loin que Kant, qu'il veut être plus kantien que Kant, et par le fait même, il n'y a plus de philosophie. C'est intéressant à voir ça. Parce que si, alors il dit que dans la mesure où on a interprété un super Kant à la manière de Heidegger, c'est faux. Tout ça, c'est contraire à Kant, parce qu'on prend de Kant l'inconscient de Kant. Il y a le conscient de Kant et l'inconscient de Kant. Le conscient de Kant, c'est justement la critique. L'inconscient de Kant, je suis professeur de philosophie, sauvons la philosophie. Vous voyez ? Alors, lui qui veut être plus kantien que Kant, va rejeter l'inconscient de Kant et va reprendre le conscient de Kant. En disant que Heidegger, lui, va exalter ce qui n'est pas le vrai Kant. Et donc de retrouver au-delà de Kant une métaphysique. Alors que vraiment, à partir de Kant, une pensée-l'être, je veux dire, retrouver l'être, pas une métaphysique, mais pensée-l'être. Alors que si je regarde Kant, l'être ne peut exister qu'au niveau de la copule. Uniquement. Au niveau de la copule, c'est-à-dire dans l'attribution. Pierre est blanc. Pierre est grammairien. L'être, c'est « et » grammairien, la copule, ce qui fait l'union entre le prédicat et le sujet. L'être ne peut exister qu'à ce niveau-là. Et donc, évidemment, il ne peut pas y avoir de métaphysique, c'est absolument impossible. Non seulement il n'y a pas de métaphysique, mais il n'y a même plus de philosophie. C'est intéressant de voir qu'au fond, et ce serait ce sera poussé, ça, de voir que dans la mesure où on rejette la métaphysique, est-ce que dans la même mesure on ne rejette pas la philosophie ? Et qu'alors, est-ce qu'on ne retombe pas dans un positivisme ? Pratiquement, on tombe dans un positivisme, le positivisme absolu de l'aspect phénoménologique, de la phénoménologie, du phénomène comme tel. On ne regarde plus que ça. C'est la seule pensée qui peut exister. Alors, pour ça, c'est intéressant de montrer qu'il essaie de découvrir la logique profonde interne à Kant qui doit aboutir au refus de la philosophie. Et je croirais assez volontiers que dans la mesure où on refuse une métaphysique, pratiquement on refuse une philosophie. Il y a chez Clavel une fureur de l'intériorité. Ça va très loin. On ne peut pas parler de l'intériorité. Parler de l'intériorité, ça ne signifie rien du tout. On ne peut parler que de ce que nous constatons. Vous voyez, on tombe dans un positivisme absolu. Et pour lui, c'est la conséquence immédiate de Kant. Kant doit aboutir à ça. Bon, je fais simplement ça parce que c'est intéressant, si vous voulez, de voir un tout petit peu ce qui se passe chez des gens qui se rattachent et qui veulent se rattacher à toute une tradition. On considère que Kant, c'est évidemment, c'est une tradition. Et cette tradition, si on la pousse, on doit aboutir à ça. Pourquoi maintenir une philosophie première? Une philosophie première qui est distincte de ce que Heidegger regarde comme métaphysique. Alors ici, si vous voulez, je vais essayer avec vous, parce que je crois que c'est important d'y réfléchir, voir la naissance de la métaphysique telle qu'elle est née en Occident, à partir de Descartes, à partir de Suarez. Il y a un lien très net entre Suarez et Descartes, ça, personne ne peut le nier. Il y a un lien très net. Et avant Suarez, il y aurait peut-être l'influence de Occam, il faut bien. Vous voyez, il faut bien le retrouver. Soit. Autrement dit, Suarez a quand même une très bonne intention. Beaucoup de philosophes ont de très bonnes intentions. Ce sont des braves gens, enfin, après tout. Ce sont des gens qui veulent sauver quelque chose. Alors, il a une très bonne intention. Suarez a une excellente intention. Il veut sauver à tout prix la métaphysique de saint Thomas. Donc, c'est une excellente intention. On ne peut pas nier la part d'un père jésuite, n'est-ce pas ? Sauver la métaphysique de saint Thomas contre la logique d'Occam, ou contre la logique d'Occam, pour réhabiliter la métaphysique face à Occam, qui avait réduit la métaphysique à la logique. Donc c'est bon comme intention, je crois que c'est très légitime, il faut bien comprendre ça. Alors comment va-t-il faire? C'est d'essayer, à partir de la somme théologique de saint Thomas, d'essayer d'extraire une métaphysique. Et je crois que c'est important parce que c'est à partir de là qu'on va essayer d'extraire une métaphysique chrétienne. C'est évident, on ne peut pas nier que saint Thomas est un chrétien. C'est difficile de mettre saint Thomas en dehors du point de vue chrétien. Il est un théologien. Il est un théologien qui a la foi et qui cherche l'intelligibilité. Fides querens intellectum. Il ne faut pas oublier cette grande orientation à partir de saint Anselme, sur laquelle le père Chenu insiste tellement pour comprendre le Moyen-Âge. Tout le Moyen-Âge se comprend dans cette lumière-là. La foi qui cherche l'intellectum, qui cherche à saisir quelque chose d'intelligible à partir de la foi. Je crois que c'est très important. Là, l'intuition du père Chenu est très très juste, je crois. Que tout est commandé par cette vision de saint Anselme. Saint Anselme a été quand même prodigieusement intelligent sur certains aspects. Et cette formule qui donne « fides querens intellectum », donc la foi qui cherche l'intellectum, qui cherche, il ne dit pas l'intelligence, qui cherche à comprendre, qui cherche à être intelligente, qui cherche à saisir quelque chose qui n'est pas absurde, qui n'est pas quelque chose qui nous dépasse. Alors, saint Thomas va établir, je suis obligé de revenir à cela, va établir ce qu'il appelle une théologie scientifique. À partir de cette théologie scientifique, on va essayer de comprendre ce que j'appelle la laïcisation de la métaphysique de saint Thomas ou de la théologie de saint Thomas, qui va nous donner ces méditations, ces disputations métaphysique de Suarez. Et à partir de là, nous allons entrer dans ce qu'on considérera d'une façon générale la métaphysique. J'espère que vous allez saisir. Parce que c'est intéressant à saisir ça. Je crois que si on saisit ça, ça nous aide beaucoup à comprendre pas mal de problèmes à la fois de Kant et le problème actuel dans lequel nous nous trouvons. Alors, je reprends le problème chez saint Thomas, parce que je crois que ça a joué un très grand rôle. On ne peut pas comprendre Suarez sans regarder saint Thomas. C'est la toile de fond. Or, Suarez a joué historiquement un rôle beaucoup plus important que saint Thomas, du côté de l'efficacité. Ce n'est pas saint Thomas qui a joué un grand rôle du côté de l'efficacité. C'est du reste souvent comme ça. Quand la pensée est trop poussée, on ne la comprend pas, et alors elle tombe dans les ténèbres. Tandis que la pensée moins poussée, l'éclectisme de Suarez, c'est un éclectisme. C'est un éclectisme que représente Suarez. Intelligent, hein, dans une très bonne intention. Voyez bien, je critique le contenu métaphysique de la pensée de Suarez sans du tout critiquer les intentions de Suarez. Parce que les intentions de Suarez sont sûrement très justes, sont sûrement intéressantes, quoi, selon intéressantes, il aurait dû opérer autrement. Donc, je prends dans saint Thomas ce qu'il pense par la théologie scientifique. Alors, je vous renvoie ici à la première question de la somme. Même si on fait de la philosophie, puisque nous faisons de la philosophie et qu'en même temps, il y a tout le problème de la philosophie médiévale, il y a toujours les trois aspects sur lesquels on doit réfléchir. Les sources qui sont les Grecs, la philosophie médiévale qui est commandée par les pères de l'Église et les théologiens, et puis le décrochement à partir de Descartes, retrouver une pensée autonome philosophique, c'est Descartes. Donc vous avez saint Thomas, Suarez et Descartes. Descartes représente le troisième moment. Avant Saint-Thomas, vous avez la pensée grecque, les sources. La pensée grecque qui représente les sources, vraiment les sources. On ne peut pas dire du tout que les pères de l'Église et les théologiens sont les sources. C'est ça du reste qui fait le très gros problème. Et à partir de Descartes, vous avez, au fond, la philosophie qui veut retrouver son autonomie. Il y a un lien entre Descartes et Suarez, il y a un lien entre Suarez et saint Thomas. Historiquement, c'est net. Alors, c'est intéressant de voir quelle est la métaphysique qui va naître à partir de Suarez. Cette métaphysique qui va être transmise d'une certaine manière et transformée par Descartes, et qui va aller jusqu'à Hegel. Et je crois qu'à partir de Hegel, c'est l'éclatement. C'est pour ça que nous vivons, nous, quelque chose de nouveau. Point de vue-là, nous ne sommes pas de Descartes à Hegel. Nous sommes dans quelque chose de très nouveau, ce qui est très intéressant parce que ça, c'est comme un appel à retrouver les sources. L'intérêt de Heidegger, c'est que Heidegger va vouloir dépasser de Descartes quand Hegel va vouloir de retrouver la pensée de Parménide. Donc, il est dans les sources. Il fait ce bond. C'est intéressant à voir. Il va dépasser tout ça en disant tout ça, c'est l'oubli de l'être. On va retrouver l'être à Parménide. Donc, le désir de retrouver la source. Et je crois que c'est au fond un point de vue très actuel, cela. On est comme fatigué. De Descartes à Hegel, ça fatigue. Ça fatigue parce qu'il y a comme une espèce de reprise constante. Et on veut une espèce de retour, un rajeunissement, si vous voulez, de la pensée. Et je crois qu'on est obligé, en face de la science qui est tellement développée, en face de la science qui a un peu pris tout le point de vue de la culture, au point de vue culture, on est dans une culture scientifique et proprement d'application mécanique, si vous voulez. Alors, en face de ça, est-ce que la philosophie doit être simplement la méta-science, ou est-ce que la philosophie doit reprendre quelque chose que la science ne peut jamais dire? Le problème se pose comme ça. Je crois que où on est dans le prolongement de la science, on va dire, prolongeons la science le plus qu'on peut et on va retrouver une métaphysique, ou au contraire, pas du tout. La science, c'est un développement propre, à partir des mathématiques, c'est un développement propre, sui generis, et on n'arrivera jamais à rejoindre la philosophie à partir de la science. Alors il s'agit de redécouvrir les sources. Merleau-Ponty avait très bien senti ça. Et je crois que Heidegger, il l'avait ressenti sans doute à cause de Heidegger. Heidegger a très bien senti ce désir de retrouver aux sources. Alors que, vous voyez, Clavel se remet à dire non, on ne peut pas, le grand philosophe, le dernier grand philosophe, c'est Kant, et bien soyons kantiens. C'est une position. J'aime mieux la position de retour vers les sources, personnellement, n'est-ce pas? Parce que je trouve qu'il y a une fatigue de Descartes à Hegel. Et je trouve que c'est très fatigant. Alors, il faut reprendre peut-être ce qu'il y a de retour vers quelque chose de plus fondamental, tout en comprenant pourquoi, et c'est ça que je voudrais faire avec vous ici, avant de retourner vers les sources, comprendre pourquoi la métaphysique avec Suarez, une métaphysique qui se veut s'enraciner dans saint Thomas, cette métaphysique a commencé par l'idée. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Suarez ? C'est qu'on est en face de l'idée de l'être. Le concept d'être. Toute sa métaphysique repose sur le concept de l'être. Et ce qui est très significatif, c'est que sa métaphysique, commençant par le concept de l'être, il nous dit tout de suite, le concept de l'être implique infini et fini. Voilà pour lui l'analogie. L'analogie est entre le mode infini et le mode fini de l'être. Alors, vous voyez cette distinction de l'idée de l'être. Vous avez un concept d'être qui a deux modalités. La modalité infinie et la modalité finie. J'aime beaucoup ça parce que moi je n'ai pas de concept de l'être infini. Je l'avoue tout de suite. Le concept de l'être fini, oui, très très bien, ça, la limite très... Mais le concept de l'être infini, non. Vous comprenez comment, à partir de là, est né chez Descartes le point de vue de l'infini. Vous comprenez très bien. Il y a un lien direct. Le concept d'infini chez Descartes, c'est le concept qui lui permet de découvrir Dieu. C'est la remontée vers Dieu. Donc c'est au cœur de ses méditations. Et de ce que représente la métaphysique. Donc il y a un lien tout à fait direct entre le point de vue de Suarez qui dit que la métaphysique commence par l'idée d'être, le concept d'être, et le point de vue de ce concept d'être qui implique fini, infini. Vous retrouveriez quelque chose de semblable même chez Maritain. Parce que regardez ce que dit Maritain, c'est un livre à lire, il faut. De temps en temps, il faut s'y remettre, de relire là. C'est intéressant quand vous regardez les 7 leçons sur l'être de Maritain. Bien, essayez de comprendre comment Maritain conçoit l'être. Il ramène tout à l'idée d'être et vous trouvez infini et fini. Alors ça, c'est la signature de Suarez. Donc, on reste dans la même ligne. On reste dans la même ligne, c'est-à-dire qu'on commence par un concept d'être. Ma métaphysique commence par le concept d'être. Et c'est cela que Heidegger, avec beaucoup de force, dit non. Et là, je suis parfaitement d'accord avec lui. Je ne peux pas commencer ma métaphysique par un concept d'être. C'est absolument impossible. Si je commence ma métaphysique par le concept d'être, je m'enferme dans une idéologie et je ne peux pas sortir de cette idéologie. Vous voyez ? Alors, c'est intéressant de voir que c'est vraiment à partir de là. Vous voyez ? Et il y aurait même, je crois... On pourrait retrouver que dans l'affirmation d'une métaphysique chrétienne, ça provient encore de Suarez. Chez Gilson, son aspect de métaphysique chrétienne, ça provient de Suarez. Tout cela provient de Suarez. Suarez a joué un rôle extraordinairement important, ce serait une très belle thèse à faire, de voir de l'influence de Suarez sur toute la métaphysique occidentale. À partir de lui. Et vous verriez que tout est commandé par ce concept de l'être fini-infini. Alors, comment Suarez a-t-il abouti à cela? C'est ça qui m'intéresse. En regardant saint Thomas, comment s'est fait ce passage de Thomas d'Aquin à Suarez? Comment s'est fait le passage entre les deux? Bon, saint Thomas, lui, ne fait pas de philosophie pure, jamais. Le philosophe, c'est Aristote, tout le temps. Et le commentateur, c'est Averroès. C'est intéressant, uniquement dans le langage, c'est quand même intéressant de voir ça. C'est le philosophe, c'est Aristote. Donc, saint Thomas ne veut pas faire une œuvre philosophique, il fait des commentaires philosophiques. Il y a des commentaires philosophiques, mais ces commentaires philosophiques sont tous orientés vers le point de vue théologique. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a chez saint Thomas une métaphysique qui lui soit propre. Je sais qu'en disant ça, je vais contre toute une série qui disent qu'il y a une métaphysique propre chez saint Thomas qui n'est pas celle d'Aristote. Mais je ne crois pas que si je lis attentivement saint Thomas, je trouve une métaphysique propre. En fait, quand Gilson, le premier, a dit qu'il y avait une métaphysique propre à saint Thomas, je lui ai posé le problème en lui disant « Dites-moi le nouveau principe qu'il y a dans saint Thomas et qui n'est pas dans Aristote », Gilson n'a pas su me répondre. Il m'a dit, je ne sais pas. Alors je dis, pourquoi dites-vous qu'il y a une métaphysique propre? Pour saint Thomas, une science se distingue d'une autre s'il y a un nouveau principe. Autrement, il n'y a pas de nouvelle science s'il n'y a pas de nouveau principe. Si je prends le langage de saint Thomas, on peut discuter de savoir ce que c'est que la science, mais si je prends le langage de saint Thomas, saint Thomas le dit explicitement dans son commentaire des Secondes analytiques. Il dit que la diversité des sciences se prend des principes propres. Alors, pour dire qu'il y a dans saint Thomas une nouvelle métaphysique, il faut au moins préciser le principe propre qui existe dans saint Thomas et qui n'existe pas dans Aristote. Or, tous ceux qui disent qu'il y a une distinction, une métaphysique propre dans saint Thomas et qui n'est pas dans Aristote, toujours c'est à propos de l'essai. Or, l'essai n'est pas un principe. Donc, je ne peux pas distinguer la métaphysique propre de saint Thomas de celle d'Aristote uniquement provenant du point de vue de l'essai. Il faut quand même discuter sérieusement, parce que je peux dire que l'essai prend dans la théologie de saint Thomas une importance unique, c'est normal, puisque saint Thomas est un théologien. Et donc, si saint Thomas est un théologien, le point de vue de l'essai prend chez saint Thomas une importance unique. Vous voyez, ça c'est très net. Parce que c'est, de fait, la grande conclusion. Pour le théologien, qui regarde tout dans la perspective de la création, qui regarde tout à partir de Dieu, l'essai, c'est l'effet propre du Créateur. Donc, si l'essai est l'effet propre du Créateur, il est normal que, chez saint Thomas, l'essai prend une valeur unique qu'on ne trouve absolument pas dans la philosophie aristotélicienne. Bon, alors, je reviens à saint Thomas, hein, pour essayer de comprendre ce passage de saint Thomas à Suarez. Saint Thomas nous dit qu'il y a deux sources toujours à la théologie scientifique. Une première source, c'est la foi, une seconde source, c'est la philosophie. Il dit que le propre du théologien, c'est par la foi de se servir de la philosophie. Donc on fait usage d'une philosophie. Comprenons bien que quand on dit que la théologie scientifique a deux sources, ça ne veut pas dire qu'on fait foi plus philosophie. Mais comme si on mettait des ingrédients en disant foi plus philosophie. Donc je fais une petite de petit cocktail de foi et de théologie. C'est pas ça du tout. C'est la foi qui va éclairer, dominer et donc utiliser ce que la philosophie peut donner. Alors, toute la grosse question, qui est très difficile, c'est de savoir comment la foi utilise la philosophie pour arriver à un nouveau type de connaissance qu'on appelle la théologie et la théologie scientifique. Parce que saint Thomas est conscient qu'il aboutit vraiment à une théologie scientifique, ce qu'on n'a jamais fait avant lui. Il y a le double langage chez saint Thomas. Il y a la doctrina sacra, Et puis, il y a la science théologique. Et donc, quand il dit théologie scientifique, il veut nous montrer que la théologie scientifique est un aspect de la doctrina sacra. Autrement dit, la théologie scientifique va nous donner un type de connaissance particulier qui est une science, comme il dit, subalternée. Subalternée à la connaissance des saints, c'est-à-dire à la vision béatifique. Ça qui fait le statut de la théologie qui est très particulier. Le statut de la théologie scientifique est très particulier. Ce n'est pas une science autonome, c'est une science subalternée. Et une science subalternée à la foi. Si c'est une science subalternée à la foi, on comprend que la théologie ne peut pas se séparer de la foi. Elle ne peut pas se séparer de la foi et elle implique nécessairement un contenu philosophique. Mais le contenu philosophique est complètement assimilé, dépassé par le problème de la foi. Autrement dit, saint Thomas nous dit qu'il y a trois sagesses. La sagesse philosophique, métaphysique, la sagesse théologique et la sagesse don du Saint-Esprit. C'est important pour saint Thomas quand il dit trois sagesses, parce qu'il veut nous dire qu'il y a donc trois ordres différents. Il y a l'ordre propre du philosophe, il y a l'ordre propre du théologien, il y a l'ordre propre du saint, au niveau mystique. Donc, trois ordres différents, trois manières d'ordonner les problèmes et de les voir dans leur ensemble. Le propre du sage, c'est d'ordonner. C'est très important de comprendre ça. Le propre du sage, c'est d'ordonner. Le sage peut ordonner parce qu'il sait où il va. Il a la connaissance de la fin. S'il n'avait pas la connaissance de la fin, il ne serait pas un sage. Toute la différence entre un savant et un sage. Le savant peut connaître des quantités de choses sans connaître la finalité. Le sage connaît la finalité. Et en fonction de la finalité, il ordonne ses connaissances. Alors, il y a trois manières de saisir la finalité. Je la saisis au plan philosophique, au plan métaphysique. Une fois que je saisis la finalité au point de vue philosophique, je peux ordonner ce que représente ma philosophie morale, lié d'une certaine manière à ma métaphysique. Il y a un autre ordre qui est donné directement par les dons du Saint-Esprit, qui est par le point de vue de la grâce et qui est le point de vue de la vie intérieure, qui m'unit directement à la bonté divine par l'Esprit Saint et dans l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, il y a l'ordre propre du sage, c'est-à-dire du mystique. Et puis, entre deux, il y a le théologien. Le théologien, c'est toujours l'entre-deux. Ça, c'est très important à comprendre. Comprenez bien, le théologien n'est pas une source. Le philosophe a une source. Le mystique a une source. Mais pas le théologien. C'est pour ça que ça fatigue. Parce que ce n'est pas une source. C'est un mixte. Toute la théologie est un mixte. La théologie scientifique de saint Thomas. Parce que la théologie mystique, ce serait justement reprendre la source. Mais la théologie scientifique est toujours quelque chose d'intermédiaire. C'est intermédiaire par rapport à la source de la foi et à la source de la philosophie. Ça, il faut essayer de comprendre cela. Les deux grandes sources de la théologie scientifique. Et la théologie scientifique ne m'amène pas à une source propre, mais c'est un mixte. C'est pour ça que les professeurs de théologie, c'est toujours particulier, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont professeurs de théologie. Alors, s'ils ne sont pas assez philosophes, s'ils ne sont pas assez mystiques, au bout d'un certain temps, ça se fatigue. Parce qu'ils ne retournent pas à la source. Le retour à la source seul permet de renouveler. S'il n'y a pas un retour constant à la source, ça ne se renouvelle pas du tout. Tandis que le retour constant à la source renouvelle. Donc on peut dire que la théologie va être un mixte à l'égard de ces deux sources. Ça fait une mixture particulière. Mais c'est pour ça que je crois qu'il y a une certaine infécondité à la théologie scientifique comme théologie scientifique. La seule fécondité, c'est le retour à la source. Il y a une fécondité au point de vue de la pensée, au point de vue philosophique, il y a une fécondité au point de vue mystique. Mais la théologie scientifique comme telle, je ne la condamne pas en disant ça. Je constate ce qu'elle est. Il faut savoir ce qu'elle est. Elle est utile, mais elle n'est pas une fin. Elle ne finalise pas notre vie. On ne peut pas finaliser notre vie. On ne peut pas finaliser notre vie par la théologie scientifique. Tandis qu'on peut, d'une certaine manière, finaliser sa vie humaine par le point de vue philosophique comme par le point de vue mystique. On touche quelque chose qui est un certain absolu. Tandis que la théologie scientifique, elle, est un intermédiaire. Bon, une fois qu'on a compris cela, je crois qu'on peut tous comprendre ça, si on connaît un tout petit peu ce que représente la somme théologique de saint Thomas. Si on ne la connaît pas, on comprend qu'il y a là un moment très important dans l'histoire de la pensée, qui a joué un rôle important, et surtout ce rôle important, on le retrouve chez Suarez. Alors, ce que je veux montrer ici, c'est que Suarez, devant la théologie scientifique, veut retrouver directement, dans la théologie scientifique de saint Thomas, il veut retrouver directement une métaphysique, sans revenir à la source. Dans la théologie scientifique de saint Thomas, il y a un ordre qui est propre, qui n'est ni l'ordre philosophique, ni l'ordre mystique. Il y a un ordre propre, puisqu'il y a une sagesse, une sagesse acquise. Cette sagesse acquise, qui est une science, qui implique quelque chose de rationnel, qui implique un mode d'argumentation. Il y a donc à l'intérieur même de la somme théologique de saint Thomas, un ordre propre, qui n'est ni celui de la théologie mystique, donc ni du mystique, ni du philosophe. Mais je peux évidemment laïciser cet ordre propre de la théologie scientifique et dire que le contenu de cet ordre va me donner une métaphysique. Et alors à partir de là, vous voyez, je ne reviens pas à la source du philosophe qui est de revenir à la réalité, mais je reste au niveau des concepts et des concepts analogiques. Et je regarde les notiones, pour employer le terme de saint Thomas. Ce sont les notiones, ces notions, ces concepts analogiques que je regarde et que j'essaie de prendre pour eux-mêmes. Et à partir de là, je vais essayer d'extraire donc une métaphysique à partir des notions. Donc à partir des idées, et non plus une métaphysique à partir de l'expérience première de l'être. Donc première constatation, je crois que ça on peut saisir. Le philosophe se sert de la philosophie, il se sert des conclusions du philosophe, il se sert de ses notions analogiques. Il se sert de ses définitions. Il ne refait pas la démarche inductive. Et c'est ça qui est très délicat. Il ne refait pas la démarche inductive. Le théologien ne refait pas la démarche inductive du philosophe. Il se sert. C'est très curieux. Dans quelle mesure pouvons-nous nous servir d'une sagesse? Vous voyez, c'est la grosse question. Je ne la résous pas ici, mais il faut se la poser. Dans quelle mesure pouvons-nous nous servir d'une sagesse? Qui dit sagesse dit autonomie. Qui dit sagesse dit un ordre parfait. Alors dans quelle mesure pouvons-nous nous servir d'une sagesse? Et qu'est-ce qu'on peut se servir de la sagesse, de cette sagesse métaphysique? Je crois qu'on peut servir uniquement des conclusions, des notions, donc des concepts, des définitions, mais on ne refait pas, et c'est là le point de vue délicat, on ne refait pas la démarche inductive. C'est pour cela, vous allez tout de suite saisir, C'est pour cela que dans la métaphysique de Suarez, on ne parle absolument plus d'induction. Ça n'existe plus. Puisqu'on part d'idées, on n'a plus besoin d'induction. On part d'idées, on part de principes, mais on conçoit les principes à partir des idées. Et on conçoit le principe de causalité à partir de l'idée. On ne conçoit plus du tout les principes à partir d'une induction, c'est-à-dire une induction qui est en contact avec le réel. Vous voyez, au fond, on a saisi, et c'est ça qui est impressionnant, on ne saisit de la métaphysique de saint Thomas que ce que la foi a utilisé. Et ce que la foi a utilisé, c'est avant tout ses notionnesses. Ces notions, ces concepts. Alors, je précise encore, pour que vous compreniez mieux. Lorsqu'il s'agit de la théologie, la foi me donne un jugement d'existence. La foi implique un jugement d'existence propre. Bien évident que le croyant est celui qui adhère à une réalité révélée, qui adhère à un mystère et à l'existence de ce mystère. Le croyant adhère à l'existence d'un mystère. Si le croyant adhère à ce mystère révélé, le propre de la foi, c'est le jugement d'existence. C'est ça qui caractérise la foi. Pour saint Thomas, la foi ne nous donne pas de nouvelles idées, de nouveaux concepts. Puisque, de fait, Dieu ne se sert pas d'un langage particulier pour nous parler, mais qu'il se sert d'un langage qui est le langage de tout le monde. Le langage du peuple auquel il se sert. Il n'y a pas une langue particulière inventée par Dieu qui soit l'hébreu. Ça, il faut entendre certains rabbins qui, pour eux, il y a un langage divin qui est l'hébreu, mais pour les autres, on est bien obligé de reconnaître, non, ce n'est pas un langage propre à Dieu. J'ai entendu ça directement, alors c'est pour ça que je peux le dire. Il me disait, la langue des goïmes, c'est conventionnel, mais la langue de l'hébreu, la langue hébraïque, est une langue sacrée. C'est une langue sacrée, donc c'est une langue qui vient directement de Dieu. Elle n'est pas conventionnelle, celle-là. Toutes les autres langues sont conventionnelles, c'est pour ça que je ne peux pas traduire. Traduire, c'est tomber dans la laïcisation. Donc je laïcise l'hébreu quand je traduis. Je ne peux pas traduire l'hébreu. Cette vision est très belle, mais elle n'est pas vraie, je crois. La vision vraie, c'est que Dieu se sert de n'importe quelle langue. Il s'est servi de l'hébreu, comme il s'est servi du grec, comme il se sert du latin, comme il se sert de n'importe quelle langue. Et c'est le propre du mystère de la Pentecôte. N'est-ce pas ? C'est que ça a éclaté. Ça a éclaté dans tous les sens. Bon, si Dieu n'invente pas de langue, Dieu ne nous donne pas de nouveaux concepts avec la foi. Tout ça se tient. Dieu ne nous donne pas de nouveaux concepts. La seule chose que Dieu nous donne de nouveau et gratuitement dans la foi, c'est un nouveau jugement d'existence. La seule chose qui est surnaturelle dans la foi, c'est le jugement d'existence, ce n'est pas les concepts. Très important à comprendre ça, parce que moi on ne comprend rien du tout. Si on ne comprend pas ça, vous comprenez, on ne peut pas se dire qu'il puisse y avoir une théologie. Si nos concepts étaient divins dans la foi, comment voulez-vous avoir une théologie? On ne peut faire qu'une seule chose, c'est de répéter ce qui a été dit, et puis c'est tout. Tandis que si nos concepts ne sont pas divins, et que seul le jugement d'existence est divin, à partir de là, je peux comprendre comment il peut y avoir une précision au niveau des concepts, à l'intérieur du jugement d'existence. La foi me donne un jugement d'existence qui est divin. Et je me sers des concepts qui sont impliqués dans la parole divine, la parole révélée. La parole révélée implique nécessairement certains concepts. Quand je dis Dieu est Père, Dieu Père, ben c'est un concept. J'ai un peu avoir un concept de paternité. Quand je dis Dieu est Père, ça prend une signification tout à fait différente pour le croyant, parce que la paternité est impliquée immédiatement dans le mystère de la très sainte Trinité. Alors il y a, au point de vue du jugement d'existence, quelque chose de nouveau. Tandis qu'au niveau du concept, non. Les concepts ne sont pas changés. Ce n'est pas parce que je suis croyant que je suis plus intelligent. Ce n'est pas parce que je ne suis pas croyant que je suis moins intelligent. Tandis que vous devriez dire, le croyant a nécessairement des concepts nouveaux. Non. Il a un jugement d'existence. S'il y a un jugement d'existence au niveau de la foi, vous comprenez que le jugement d'existence du philosophe va être mis entre parenthèses quand la foi se sert de la philosophie. Autrement, il y aurait rivalité entre les deux jugements d'existence. Et il n'y aurait jamais l'unité. La pensée ne peut s'en faire donc qu'au niveau des concepts et des notions. Et il faut que le jugement d'existence du métaphysicien soit mis entre parenthèses. Le jugement d'existence du théologien est mis entre parenthèses. Et le seul jugement d'existence qui demeure, c'est le jugement de la foi. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Évidemment, pour comprendre ça, il faut voir la différence qui existe entre un concept et un jugement d'existence. Ce qui est très important. La différence qui existe entre un concept, les notions, et puis le jugement d'existence. Alors, si on est déjà un tout petit peu habitué à la philosophie, on comprend tout de suite. Si on n'est pas habitué du tout, c'est difficile, hein. Pour les premières années, c'est difficile de comprendre ça. Je comprends très bien. Ne vous inquiétez pas, laissez tomber. N'est-ce pas ? Ne comprenez pas, dites-vous qu'il y a un problème intéressant qui est là, le problème de la jonction de la foi et de la philosophie. Et je crois que c'est très important, parce que c'est tout le problème de la théologie. C'est le problème de la jonction de la foi et du point de vue de la philosophie. Comment se fait cette mixture ? Est-ce que cette mixture est normale ou est-ce qu'elle est anormale ? Pour beaucoup aujourd'hui, cette mixture est anormale. Pourquoi ? Parce qu'il ne distingue plus concept et jugement d'existence. Si je confonds concept et jugement d'existence, il ne peut pas y avoir de théologie. C'est très simple. Il n'y a plus qu'un croyant. Il n'y a plus que le croyant, c'est tout. La théologie ne peut plus exister. Si au contraire, je distingue concept et jugement d'existence, je vois qu'il y a une possibilité d'une théologie, parce que le concept impliqué dans le jugement d'existence, au point de vue de la foi, peut s'enrichir de mes autres concepts. C'est ma même intelligence. Je n'ai pas deux intelligences, l'intelligence du croyant et l'intelligence du non-croyant, du petit païen qui est en moi, du philosophe qui est en moi. Non, c'est la même intelligence, l'intelligence de celui qui croit, et l'intelligence de celui qui réfléchit. Et il faut bien voir le partage des eaux. Et il faut bien voir qu'il n'y a pas d'opposition, mais il y a un partage des eaux, il y a une distinction entre les deux. Et la distinction, elle se fait au niveau, justement, de ce jugement d'existence du croyant qui assume les concepts acquis par le sens commun, par la vie habituelle, comment on acquiert un langage. Et ce langage qui vient de Dieu n'est pas un langage nouveau, mais c'est un langage qui a un sens nouveau dans le jugement d'existence. Mais parce qu'il y a le concept qui reste le même, il y a une possibilité d'une théologie. Donc, la seule chose que peut assumer le théologien, ce sont les concepts et pas le jugement d'existence. Par le fait même, une théologie, par le fait même, une métaphysique, qui va s'extraire d'une théologie comme celle de saint Thomas, est une métaphysique qui va partir des idées et non plus du jugement d'existence. C'est une métaphysique qui va partir des idées, c'est une métaphysique qui ne va plus avoir d'induction, qui ne va plus avoir que des définitions. Et les principes qu'elle a, en réalité, ne sont plus des principes, ce sont des définitions. Et on donne une définition du principe de causalité. Alors, voyez la différence entre la définition du principe de causalité et le principe de causalité. Et là, vous comprenez Kant. Et vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui. C'est un petit peu raide ce que je vous dis là, hein, mais c'est bon. De temps en temps, il faut faire des cours raides pour vous montrer que vous ne comprenez rien. C'est utile de montrer qu'il y a un nœud là, un nœud qui est capital, qui est absolument capital. Je ne le fais pas pour le plaisir, je le fais, je suis persuadé que dedans, il y en a toute une série qui comprennent. Ceux qui sont en troisième année comprennent très bien. Alors, de temps en temps, il faut faire des cours pour eux, pour qu'ils comprennent que c'est utile d'assister aux cours. N'est-ce pas ? Tandis que les premières années planent un peu. C'est impossible. Parce que Saint Thomas, Suarez, Descartes, oui, ce sont des voix très très bien. Alors, ce qui est important à voir, c'est que la métaphysique, à partir de Suarez, devient une métaphysique de l'idée d'être. Cette métaphysique a été transmise jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Heidegger dit non. Et là, il a du courage. Une métaphysique de l'idée d'être n'est pas penser l'être. Et il a raison. Il faut donc redécouvrir l'être au-delà de cette métaphysique de l'idée d'être. Et dire cette métaphysique de l'idée d'être, elle ne peut pas exister, c'est pas une métaphysique, ça redevient une idéologie. Et on comprend très bien comment cette métaphysique a donné naissance à l'idéologie. Et alors il s'agit de reprendre le problème, non pas Saint Thomas. Saint Thomas n'est pas un maître au plan philosophique. Saint Thomas est un maître au niveau théologique. Mais il n'est pas un maître au niveau philosophique. Il faut redécouvrir la source de saint Thomas, Aristote, Platon, le néoplatonisme. Alors une fois qu'on fait ça, on redécouvre la source. Et alors, en dernier lieu, Parménide, je veux bien. Parménide est une source. C'est une source parce qu'il est le premier quand même qui a pensé l'être. Et donc c'est une source, et une source qui est importante à saisir.